Une centaine de personnes étaient présentes à la cérémonie des vœux d'Europe Écologie Les Verts vendredi soir au Norrois, lieu symbolique de la culture arrageoise et presque devenu mythique car il a été fermé au public pendant 8 ans, mais rouvert pour l'occasion par Bernard Petitot, son propriétaire. Hélène Flautre et son staff en présence ce soir-là de la sénatrice Marie-Christine Blandin s'étaient réunis en compagnie de Bertrand Alexandre du MRC, Mouvement Républicain Citoyen, qui fait désormais liste commune avec Europe Écologie Les Verts. Ils profitaient de cette cérémonie pour également lancer leur campagne. Un absent de poids ce soir-là, Antoine Détourné du PS qui, malgré l'alliance, semble mal digérer la décision par le siège national du Parti Socialiste d'avoir nommé Hélène Flautre tête de liste pour les prochaines municipales. Nous étions là pour prendre la température. Hélène Flautre répond à nos questions. On écoute ses réactions.
Première chose, on est ici au centre culturel norrois, donc un symbole mythique quand même d'Arras. Ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas ouvert ses portes. Alors comment s'est concrétisé justement le choix de ce lieu ?
Ce lieu raconte finalement une ambition, une forme de prestige aussi, une action culturelle, quelque chose qui est resté dans la mémoire, qui a brassé toutes les grandes questions de son temps depuis 1945 jusqu'au début des années 2000. Et donc c'est un lieu fort qui marque une ambition et en fait c'est un peu peut-être ce projet de renaissance, de renouer avec ce fil de l'histoire d'Arras florissante où on parle d'Arras pour non pas pour des événements purement commerciaux comme on nous rabat les oreilles, mais où on parle d'Arras parce qu'il s'y passe, il s'y discute des choses essentielles et qui ont formé des générations d'Arageois et d'Arageoises, hein, je crois, par exemple à l'art contemporain ou à la musique. Et on sent bien que ce lieu est prêt à bouger à nouveau. Et cette idée de réveiller quelque chose dans la ville, c'était aussi le choix de venir à Norrois, c'est aussi cette ambition pour la campagne, de réveiller une ambition, une volonté de rompre avec cette espèce de laisser-aller, de gestionnite, d'à peu près, de demi-mesure, d'incohérence. Arras est une ville moyenne, mais peut avoir des politiques très ambitieuses, quoi.
Alors un mot peut-être aussi sur l'absence d'Antoine Détourné ce soir.
Eh bien, Antoine Détourné sera présent bientôt à nos côtés. Ça veut dire que bientôt, on vous invitera à une conférence de presse, certainement, à la présentation d'une liste de rassemblement, parce que moi, je n'ai pas de doute sur les choix in fine qui seront faits, parce que le rassemblement, c'est la condition pour reconquérir le beffroi. Tout le monde le dit, tout le monde le sait et en est convaincu. Et moi, je sais que la famille socialiste et son histoire à Arras, c'est une grande histoire. Et que cette famille ne voudra pas ne pas prendre toute sa place dans la reconquête du beffroi. Donc moi, j'ai entièrement confiance. Et je comprends aussi, il y a une ambiance, vous savez, ce qui vient de Bruxelles, ce qui vient de Paris, ce qui vient de... Voilà, toujours une envie d'aller externaliser les décisions. Et donc je comprends que des militants puissent se dire, mais enfin quoi, que se passe-t-il? On nous méprise en nous demandant de venir sur une liste qui soit conduite par une écologiste, en plus une femme. Donc il faut laisser le temps de cette appropriation finalement, et le temps du rassemblement, il est déjà là.
Comment elle a été prise cette décision du PS au niveau national? Alors dans la Voix du Nord, on sous-entend quand même vos liens d'amitié avec Harlem Désir. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence?
Non, je crois pas. Non pas que Harlem Désir ne soit pas un ami, hein, mais je veux dire, Harlem Désir a beaucoup d'amis aussi dans la section socialiste d'Arras. C'est pas tellement ça, c'est pas une question d'amitié, hein, je crois que c'est une question vraiment politique. On était dans un département bizarre du point de vue des relations entre le Parti Socialiste et les écologistes. Quand il y avait un accord national entre ces deux formations politiques, il n'y en avait jamais dans le département. Et point 1. Point 2, on constate que depuis que cette ville a été perdue, finalement, la famille dont on pensait qu'elle était en première ligne pour la reconquête ne s'est jamais vraiment donné les moyens de cette reconquête. Et donc, je crois que c'est un ensemble de motivations comme celle-là qui ont fabriqué une décision dans un cadre de discussion nationale, parce que heureusement, et c'est pas, je veux dire, seulement bilatéral entre Europe Écologie Les Verts et le PS, c'est-à-dire les formations de gauche discutent dans les villes par exemple où il y a un risque FN. Des villes qui ont eu pendant un mandat des exécutifs à plusieurs formations politiques, qui ont réalisé des choses pertinentes, dont les bilans sont satisfaisants, ça peut produire des listes de premier tour, par exemple. Mais il est certain que le rassemblement, ça ne peut pas être jamais d'écologistes conduisent une liste. Donc voilà, il y a une ville en France qui est conduite par une écologiste, c'est ici. Bon, évidemment, c'est ce que je demande depuis 10 mois maintenant. J'ai dit il y a longtemps que je voulais conduire une liste à vocation majoritaire. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans ce micro. Donc aujourd'hui, j'ai cette légitimité, j'ai cette responsabilité même, je dirais, de la conduire et de faire en sorte que cette dynamique de rassemblement et puis les amertumes qui peuvent naître là ou là puissent être dépassées. Et moi, je crois beaucoup que la perspective de gagner, vraiment, c'est ça. Pas parce qu'on est dans un match et il faut qu'une équipe gagne, etc. C'est parce que cette ville perd du temps. Cette ville est en train de passer à côté de la grande histoire urbaine du 21e siècle qui s'écrit quand même dans beaucoup de villes en Europe. Et les problèmes de cette ville sont patents, même s'ils sont un peu masqués, parce que c'est vrai que la beauté patrimoniale, l'histoire, etc., peut masquer les difficultés, mais il y a de très profondes inégalités entre les différents quartiers. Il y a de la misère, il y a beaucoup d'isolement social à Arras, on s'en rend peu compte. Il y a, on l'a dit, ces logements qui sont vides, ces familles avec enfants qui quittent la ville. La vie d'aujourd'hui qui doit trouver des modalités sobres, coopératives aussi. C'est ça qui va faire la force d'Arras. Et je sais que Arras, on dit à Borès, mais a vraiment cette histoire de densité sociale. Il faut réveiller ça aussi, parce qu'il y a de très belles histoires de participation des habitants, de politique de la ville, de comités d'habitants, qui sont devenus maintenant des espèces de chambres d'enregistrement, de communication politique, où les habitants sont pas mobilisés pour produire eux-mêmes les projets qu'ils souhaitent. Et ça, je sais aussi que ça peut se réveiller. Donc ce réveil va donner l'envie de se rassembler, et le rassemblement, c'est la reconquête.
Ce rassemblement, justement, s'est fait un peu sur le tard. Il a été fait au forceps. Alors maintenant, il va falloir évidemment que le rassemblement marche. Pour travailler ensemble, comment vous allez vous y prendre ?
On a une base programmatique qui est claire, qui est publique, hein, qui est sur notre site, arras2020.net. Donc on a 24 propositions qui concrétisent, synthétisent, ramassent un peu, hein, nos propositions phares, comme on dit. Ça, c'est une base de la discussion. Ça a été la base de la discussion avec Bertrand Alexandre, hein, voilà, pour voir si on était capable ensemble de porter un même projet. Ce sera la base de la discussion avec le Parti Socialiste. Il faudra discuter de ça. Il faudra discuter aussi, bien sûr, de la liste, parce que la liste est importante. Ce sont les gens qui vont potentiellement demain prendre des responsabilités dans la ville. Donc ça, c'est évidemment très important. Il faut que cette liste, elle soit pluraliste, diverse, qu'elle s'adresse à toutes les couches de la population arrageoise. Donc voilà, il faut que ça se fasse évidemment très très vite, parce que là, le temps est venu vraiment d'aller à la rencontre des Arrageois et de les convaincre.
On le sait, Bertrand Alexandre a rejoint Europe Écologie Les Verts pour ses municipales. Il nous explique entre autres les raisons de cette décision.
Monsieur Alexandre, donc on est ici dans un lieu mythique, hein, le Norrois, que vous connaissez bien évidemment. Vous pourrez peut-être me dire un mot justement sur ce lieu symbolique.
Alors effectivement, le Norrois est un lieu emblématique de la vie culturelle arrageoise, qui a ouvert ses portes, je crois de mémoire, en 1938. Et c'est vrai que Léonce Petitot, son créateur, a vraiment eu une programmation très éclectique en ayant à la fois des peintres, des musiciens. Je me souviens de concerts de de Jacques Higelin, de Brigitte Fontaine, de l'exposition de tableau de Manessier, de Majoud Benbella. Voilà, autant de talents qui se sont exprimés. Et c'est une grande émotion que nous avons entamé cette soirée de présentation des vœux pour le lancement de notre campagne avec Hélène.
Vous avez rejoint Europe Écologie Les Verts et Hélène Flautre pour ces municipales 2014. Alors comment s'est fait le rapprochement et comment vous avez justement rejoint cette alliance ?
Alors elle s'est fait sur les idées. J'ai rencontré Hélène en décembre et nous avons fait une lecture commune de nos programmes et nous avons vu de nombreux points de convergence. Cela faisait suite aussi à 6 années passées sur les bancs d'opposition où j'avais pu aussi constater que les positions défendues, les idées apportées par les deux élus d'Europe Écologie Les Verts étaient complètement dans la lignée de mes idées, des valeurs républicaines que je défends. Et face à ce constat d'avoir un programme quasi identique et puis aussi des négociations menées au national avec aussi Europe Écologie Les Verts et le MRC, j'ai pris, je pense, la bonne décision de permettre à Hélène d'avoir toutes les conditions autour d'elle remplies pour assurer à la fois le rassemblement et de pouvoir exposer conjointement avec toutes les partenaires de gauche les 24 axes qui permettront de redonner un nouveau souffle à la ville d'Araf qui en a tant besoin.
Peut-être un mot sur l'absence d'Antoine Détourné ce soir. Il n'est pas là. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer par la suite ?
Je pense qu'il est nécessaire d'avoir ce moment de répit avant que les responsables politiques parlent à leurs militants qui, je pense, avaient une volonté de s'engager dans cette campagne avec, bien sûr, leur candidat en tête de liste. Ce n'est pas toujours simple de faire valoir les intérêts généraux en lieu et place des intérêts particuliers. Je pense que la force aussi de ce Parti socialiste d'aujourd'hui, c'est d'avoir cette capacité d'analyser les situations particulières dans des communes telles qu'Arras pour prendre la bonne décision. Car l'élection, je le rappelle, municipale est une élection particulière où il n'y a pas de logique d'arithmétique, il y a une logique de personne. Dans la capacité de la personne qu'on va mettre à la tête de cette gauche plurielle, d'être en capacité de rassembler autour de son propre camp et de savoir aussi avoir un programme qui soit en mesure de toucher le cœur des Arageois.
On parle beaucoup de stratégie de campagne, mais pas encore des enjeux de ces municipales.
Ce n'est pas vraiment une stratégie. Je pense que chaque parti a essayé d'avancer, a essayé d'avoir cette légitimité qui, depuis le début, je considère qu'elle est partagée. Et après, je pense qu'Hélène s'est dégagée de la mêlée. Et je pense qu'aujourd'hui, elle incarne véritablement une chance pour la gauche de reconquérir ce beffroi. Et c'est vrai que maintenant, ça va être le temps des idées, le temps des échanges, le temps de la rencontre avec tous les Arageois qui sont légitimement en attente d'une autre politique après 2 décennies passées sous la houlette des duettistes, à savoir Philippe Rapneau et Frédéric Le Turc, qui sont obligés, car leur destin est étroitement lié, de faire ensemble. Et ce n'est pas notre cas. Nous, c'est un choix d'idées. Nous nous retrouvons sur les idées, même si nous avons pu avoir des échanges sur qui devait représenter nos idées. Mais en tout cas, nous avons les mêmes valeurs, ce qui n'est pas le cas de la majorité actuelle.
Le Noroy en compagnie de Bertrand, qui se revendique comme un militant culturel. Il est plutôt socialiste, mais séduit par les propositions d'Europe Écologie Les Verts. Il évoquera également l'absence d'Antoine Détourné.
Tu connaissais le Noroy, j'imagine que oui. Et qu'est-ce que ça te fait de te retrouver ici ?
Le Noroy, moi je m'en souviens parce que j'ai été lycéen au lycée Baudimont à Arras. Je suis venu, je pense, encore en 2000, quand ça devait exister, 99-2000, voir des films d'art et d'essai ici. Et c'est symboliquement, à travers la symbolique du renouveau arrageois, eh ben, on a la renaissance du Noroy et je suis très content d'être ici ce soir. Voilà.
Alors, tu es militant au sein du Parti Socialiste. On dirait que tu es l'un des seuls à être là ce soir. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots, ton sentiment là-dessus, sur l'absence notamment d'Antoine Détourné ?
Moi, je suis un socialiste atypique dans le sens où j'ai été socialiste arageois en 2008. J'avais soutenu Alexandre Cousin pour pouvoir avoir cette sorte... Alexandre avait déjà des discours de rassemblement à gauche au sein du Parti Socialiste. Je peux comprendre que dans les orgueils de chacun et les questions de chacun, il faut un peu encaisser cette solution. Mais il faut qu'Antoine Détourné, je lui lance un message, je lui lance le message de venir au rassemblement. Même s'il n'est pas tête de liste, c'est une personne qui pourra, à mon avis, sur cette liste, participer activement sur un rôle qui va lui permettre aussi peut-être d'apprendre aussi d'une certaine manière et d'être sans doute le maire, imaginons, dans plusieurs années. Je pense qu'on a tout à y gagner à avoir une personne de qualité comme Antoine qui soit avec une personne de grande qualité aussi comme Hélène au sein de cette liste. J'ai espoir qu'on n'ait pas deux listes à Arras, c'est les rumeurs que disent les médias régionaux. J'ai espoir qu'ils vont rejoindre l'union de la gauche.
Ces projets de campagne avec ces propositions, ton avis là-dessus ?
Sur les propositions, bah moi ça fait longtemps que j'ai pas kiffé, on va dire, je dis le mot kiffé, je peux me permettre. Ça fait longtemps que j'ai pas kiffé d'avoir quelqu'un qui me fasse rêver sur Arras, qui me dise Arras, tu sais, ta ville, c'est une ville qui nous projette, on a une histoire à Arras et qui nous permette d'utiliser tout ce qu'on a dans cette ville pour faire mieux et penser à la ville de demain. Et c'est ce que j'aime dans son projet, Hélène. Elle nous a parlé d'avenir dans une période de grande morosité. Ce qui me touche beaucoup, c'est sa volonté de penser à Arras de demain et d'être un peu une ville exemple au carrefour de l'Europe.
Place à Nico, qui était présent lors de la conférence de presse donnée par Frédéric Le Turc de l'UDI et actuel maire d'Arras, et qui entre également en campagne officielle.
Samedi matin, on est dans la cave du café brasserie L'Essentiel entre les deux places d'Arras. C'est de là que l'actuel maire UDI, Frédéric Le Turc, a choisi de lancer sa campagne pour les prochaines élections municipales. Entouré de l'UMP Philippe Rapneau et de l'ancien maire Jean-Marie Van Lorenberg, Frédéric Le Turc, sans dévoiler ni liste ni programme pour l'instant, est apparu serein.
Arras est une ville sereine. L'équipe qui m'entoure est sereine. Et nous travaillons sereinement.
Serein l'actuel maire, il faut dire que chez ses principaux opposants à gauche, c'est toujours très tendu autour de l'alliance verte et rose. Sans y paraître, et sereinement, le trio Le Turc, Rapneau, Vanle a quand même lâché quelques pics.
Je ne suis pas en fait médiateur familial, je laisse les choses.
Je voudrais dire que dans une équipe, il faut un leader, il faut un chef. Et ce chef et ce leader, nous l'avons choisi. Personne ne nous l'impose, c'est nous qui l'avons choisi.
La sérénité n'est certainement pas dans le camp d'en face, elle est chez nous. Eh bien, continuons ensemble, et je pense qu'ensemble, nous n'aurons pas de difficulté à démontrer aux Arageois que le bon choix, c'est chez nous.
Nous, nous vivons avec les Arageois, nous sommes sereins, et nous restons sereins. Sereins, sincères et engagés.
Alors sur la liste de l'actuel maire d'Arras, on retrouve des gens du centre, des gens de la droite, mais aussi sans doute il y aura des ex du PS comme Jean-Pierre Ferry, Jacques Lemaître, ancien fidèle de Léon Fatou qui travaille dans le logement social, et puis Frédéric Le Turc a aussi présenté une jeune, Lucie Lambert, qui est membre des conseils consultatifs de quartier. Alors la liste devrait s'appeler Arras au cœur, et c'est sur ce nom qu'on a commencé à interroger Frédéric Le Turc.
L'habitant, le citoyen, l'Arageois est vraiment en fait au cœur de notre projet et que la ville est notre unique sujet de préoccupation et que notre parti, le parti de notre équipe, c'est Arras.
Un mot sur la composition de la liste. Bon, pour l'instant, ça n'a pas encore été complètement dévoilé. Il y a encore des prises à gauche et puis vous annoncez des surprises.
J'annonce pas de surprise, je n'annonce pas de prise non plus. Les gens qui viennent nous rejoindre sont des gens volontaires, des gens qui font une démarche d'engagement pour la ville. La liste, elle est composée, ou presque, elle sera ajustée en fonction de la vie que l'on partage avec les Arageois, mais la liste sera à l'image des Arageois. Et je pense que c'est ça qui est important. Ce sont des gens de la ville, des gens qui vivent la cité quotidiennement et qui, en fait, n'ont simplement qu'en tête le service aux habitants, le service pour la ville, la manière de faire rayonner notre ville d'Arras à laquelle nous sommes très attachés.
C'est une liste où on trouve des gens à gauche et puis des gens aussi à droite. On accuse souvent un petit peu la municipalité d'être un peu dépolitisée, d'afficher une façade lisse, mais finalement quand même derrière il y a des choix politiques à faire. Les délégations de services publics, c'est aussi des choix politiques.
Nous avons en interne des débats. C'est une grande chance que d'avoir des sensibilités différentes. Il y a aussi des gens qui n'ont pas d'engagement dans quelque parti que ce soit. Et au contraire, moi je suis très heureux de pouvoir animer une équipe qui va de personnes qui ont une sensibilité communiste à des gens qui ont une sensibilité plus affirmée à droite. Mais je peux vous dire que ça ne pollue absolument pas le débat. Bien au contraire, ça l'enrichit. C'est ce qui fait, je pense, notre force et notre différence.
Vous êtes souvent présenté comme une personne accessible et à l'écoute. C'est ce que a dit notamment l'ancien maire Jean-Marie Van Lorenberg. Est-ce que là aussi, ça suffit à faire un bon maire? Parce que là encore, il y a des choix qui doivent être faits.
Ça fait partie de la fonction. Je fais des choix depuis 2011 en animant l'équipe et en tranchant sur un certain nombre de sujets, après concertation avec les habitants et après débat en interne. Je participe au choix directement depuis 2001, puisque, vous le savez, j'étais adjoint au maire. Je participe et contribue au choix depuis 1995, puisque j'ai été directeur de cabinet de Jean-Marie tout au départ. Et je pense, en fait, que un maire, en fait, doit à la fois être à l'écoute, parce qu'il doit respirer avec la population, il doit être au travail et animateur d'équipe, parce qu'il doit partager et échanger avec les élus, et puis aussi savoir travailler avec l'ensemble des collaborateurs de la ville, les 1000 agents qui travaillent au sein des services municipaux et qui sont aussi une valeur ajoutée indispensable pour mettre en œuvre un projet pour une ville telle que la nôtre.
Un commentaire sur ce qui se passe, les stratégies politiques qui s'affrontent à gauche?
Bah, comme vous le dites, ce sont des histoires, des stratégies, des disputes de famille. Ça n'intéresse pas, je pense, les Arageois, et c'est pas là-dessus que je ferai un commentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la ville, c'est de parler aux Arageois, c'est de parler avec les Arageois. C'est ce que je fais quotidiennement.
Un mot aussi sur l'affiche. J'ai noté, il y a plusieurs mots-clés comme social, senior, éducation, cadre de vie, culture, commerce, tourisme. Il y a un mot qui me semble absent, c'est le transport.
Non, c'est pas un mot qui est absent. D'ailleurs, je l'ai cité dans mes propos. J'ai parlé de mobilité. J'ai parlé aussi, en fait, de la manière dont nous allions et dont nous travaillons avec la communauté urbaine. Il y a aujourd'hui, en fait, des compétences qui sont directement portées par la collectivité, par la ville. Il y a des compétences qui sont aussi portées, animées par la communauté urbaine. Et c'est, en fait, cet état d'esprit d'additionnement des compétences que l'on travaille. Donc le mot mobilité, les transports sont bien présents dans notre réflexion, je vous rassure.
Sur une question clé, une question simple, oui ou non, la piétonnisation de la petite place, de la grande place, c'est quelque chose qui pourrait se faire si vous êtes élu?
J'ai dit en fait que quand on est maire, on place la ville dans une direction. Les travaux qui ont été faits sur la place des Héros ont montré que nous étions en train d'apaiser la ville en termes de charge de déplacement. Mais aujourd'hui, dans le contexte économique que l'on connaît, avec les habitudes de travail, de fréquentation du cœur de ville que les habitants ont, que les gens qui viennent nous voir, nous visiter ont, il serait complètement absurde que je réponde par oui ou par non de manière aussi simple. Si c'était aussi simple, d'ailleurs, je pense qu'on aurait déjà répondu à cette question et que vous ne me poseriez même pas la question. Donc, je l'ai dit, et d'ailleurs je l'ai dit aux commerçants, je l'ai dit aux habitants, c'est un travail quotidien, permanent, qui va nous rassembler pour progressivement trouver le bon équilibre. Je pense que ce qu'il faut, quand on veut que la ville, une ville comme la nôtre poursuive son chemin, c'est travailler à l'équilibre, et je suis un homme d'équilibre. Donc je trouverai et je trouve quotidiennement l'équilibre dans le développement de la cité. Et sur les questions de stationnement ou de déplacement, c'est la même chose.
Dernière question, si vous voulez bien. Vous avez parlé plusieurs fois de débats internes. Maintenant, en campagne, ce que les gens attendent, c'est aussi un débat, des débats publics. Est-ce que vous allez participer à des débats publics avec les autres candidats? Donc, je pense à celui qui est organisé, il me semble, par la télévision WEO, et aussi celui qui est organisé par Radio PFM et l'ensemble des médias locaux.
On étudiera en fait les propositions de débat au cas par cas. Moi, je souhaite ne pas montrer, justement, parce que je pense qu'Arras mérite autre chose, ce que l'on voit régulièrement à la télé, c'est-à-dire, en fait, des combats de coqs qui n'ont aucun sens pour le citoyen, qui n'apportent aucune valeur ajoutée à l'engagement public. Moi, je suis un maire qui est au travail, j'ai conscience des réalités de la ville et des difficultés de nos concitoyens, j'ai conscience aussi de leur envie d'entreprendre et d'avancer, et donc en fonction des formats, je verrai si j'y participe personnellement ou pas.
Frédéric Le Turc, lors de sa candidature officielle aux prochaines élections municipales à Arras, c'était samedi matin.
Voilà, on vous rappelle les autres candidats en lice pour les municipales à Arras. Hélène Flautre, qu'on a entendu tout à l'heure. Le communiste René Chevalier devrait aussi être de la partie. Interrogation sur une liste autour du parti de gauche à Arras. François Desmazières et son mouvement Les Citoyens s'engagent. Et pour le FN, un jeune, Alban Euzel. Vous entendrez à nouveau des entretiens avec ces candidats dans les jours et semaines à venir sur PFM. Et a priori, un débat devrait aussi avoir lieu entre les candidats et diffusé sur le 99.9 début mars.